Chapitre 39. Comment Monsieur le commissaire de police Mifroy prit congé de Monsieur Théophraste Longuet.
La chose se passait, fit Monsieur Longuet, dans l'endroit où nous sommes, au Carrefour Bussy.
Étais-je bien jeune ? Demandai-je en souriant.
Oh, oh, vous pouviez avoir de 50 à 55 ans.
Je fis un léger bond sur le trottoir. Je me vois dans la nécessité d'avouer que je vais atteindre bientôt. Pourquoi ne ferais-je pas cette confession ? Quelle honte à cacher de son âge ! Que je vais bientôt avoir la quarantaine. Vous jugez de mon émoi quand M. Longuet me parla d'un souvenir de ma jeunesse au temps où j'avais de 50 à 55 ans. Mais il ne prit pas garde à mon geste de protestation et continua son dire.
À cette époque, vous aviez une barbe grisonnante taillée en deux pointes larges et longues qui vous descendait bellement jusqu'au ceinturon et vous montiez, je le vois encore, un superbe cheval Isabelle.
Vraiment, je montais un cheval Isabelle. Je ne suis jamais monté qu'à bicyclette.
Cheval Isabelle que vous donnâtes à garder à l'un de vos archers.
Ah, je commandais à des archers.
Oui, monsieur le commissaire, à 20 archers à cheval et à 60 archers à pied. Toute cette troupe venait du palais de justice et arrivait Carrefour Bussy, là, vous le chef, vous mit de pied à terre parce que vous aviez soif, et qu'avant la cérémonie, vous vouliez vous désaltérer d'une pâte au cabaret tenu par la tape de rue.
Et quelle était cette cérémonie pour laquelle je venais du palais de justice, avec mes 20 archers à cheval et mes 60 archers à pied ? Je ne voulais point contrarier cet homme, je ne demandais qu'à aller me coucher.
Ben, il s'agissait, monsieur le commissaire, de m'assigner par cri public à 15 franches pour l'assassinat de l'ouvrier Mondelot. Donc, en ce jour du 28 mars 1721, les huissiers, trompe, tambour, archers à pied et à cheval, en un cortège des plus imposants, sortirent du palais de justice après avoir crié une première fois dans la cour de mai où tout s'était passé fort convenablement. Puis ils s'en furent tout d'une traite place de la Croix-Rouge où le cri fut crié sans encombre ni maléfice et revinrent ici, au Carrefour Bussy. Vous aviez avalé votre pâte, monsieur le commissaire, et vous vous disposiez à remonter sur votre cheval Isabelle quand survint cet événement mémorable. L'huissier, bien solennellement, lisait au nom du roi, de par mon seigneur du Parlement, y est ordonné au nommé Louis-Dominique Cartouche. Quand une voix retentit, présent, voilà Cartouche. Qu'est-ce qui demande Cartouche ? Sitôt, huissier, archer à pied, à cheval, tambour et trompette, tout le cortège se déborde et fuit de toutes parts. Et M. Longuet ajouta, « Oui, il ne resta personne au Carrefour Bussy, personne que moi, le cheval Isabelle, quand j'eus crié, « Je suis Cartouche !»
Phénomène plus curieux que tous les curieux phénomènes que j'avais eu l'occasion d'étudier au fond des catacombes, raconte M. Mifroy. M. Longuet n'avait pas plutôt dit « Je suis Cartouche », que je me mettais à fuir le Carrefour Bussy de toute la vélocité de mes jambes, comme si la terreur de Cartouche habitait toujours les jarrets de la police depuis près de 200 ans. Carrefour Bussy. Chapitre 40. Où le lecteur retrouve une ancienne connaissance. Nous voici forcés de laisser là le mémoire de M. le commissaire de police Mifroy, quoique les considérations philosophiques, réflexions et déductions qui le terminent présentent le plus haut et le plus pressant intérêt pour l'humanité. Non seulement son mode de juger la désorganisation sociale des talpas et les leçons qui selon lui en découle pour un peuple sévèrement policé, mais encore les quelques observations psychiques qu'il fut à même de faire sur la personne double et une de M. Longuet, dans les couloirs des catacombes, nous eussent procuré de longues heures de lecture instructive et originale. Mais quoi ? Pouvions-nous abandonner M. Longuet au carrefour Bussy ? Je ne le pense pas. Hélas, M. Longuet n'a plus de longues heures à vivre, et il est inutile de ne point le perdre de vue jusqu'à son dernier souffle. M. Longuet, quand le bruit de la fuite de M. Mifroy ne retentit plus sur les trottoirs, se sentit envahi de la plus définitive tristesse. Voyez le pauvre homme dans la clarté vacillante du réverbère. Il secoue la tête. Ah, comme il secoue lamentablement sa misérable, douloureuse tête. À quoi bon, songe-t-il, le triste homme, pour ainsi à plusieurs reprises secouer la tête? Sans doute, cette idée qu'il eut d'aller troubler le repos de sa chère Mardeline ne lui paraît point à cette heure une idée raisonnable, et il la repousse en effet. Car son pas pesant et languissant ne le conduit pas vers les hauteurs de la rue Gérandeau. Quelques minutes plus tard, il se trouve place Saint-André-des-Arts, puis il s'enfonce dans le boyau obscur de la rue Suger. Il sonne à une porte, la porte s'ouvre. Dans l'allée, un homme en blouse, un bonnet de papier sur la tête, une lanterne à la main, demande ce qu'on veut. « Bonsoir, Ambroise, » dit Théophraste. « Tu veilles encore à cette heure ?»« C'est moi. Oh, il m'en est arrivé des histoires depuis la dernière fois que je t'ai vu. » C'était vrai. Il était arrivé à M. Longuet beaucoup d'histoires depuis qu'il avait vu Ambroise, car il ne l'avait pas vu depuis que celui-ci lui avait donné son avis sur le filigrane trouvé dans les caves de la conciergerie. Et le lecteur se souviendra peut-être que ceci survint tout au début de cette histoire. « Entre, dit Ambroise, tu es chez toi ?»« Je te raconterai tout ça demain, dit Théophraste. Ce soir, voudrais bien dormir. » Ambroise montra son lit à Théophraste, qui s'y étendit et dormit aussitôt du pur sommeil du petit enfant. Les jours suivants, Ambroise voulut faire parler Théophraste, mais, chose singulière, celui-ci conserva le plus absolu mutisme. Il passait son temps à compulser des notes et papiers qui remplissaient ses poches. Et puis, deux nuits de suite, toujours sans dire un mot, il écrivit. Un matin, il s'apprêtait à sortir. « Où vas-tu ? » lui demanda Ambroise. « Va demander une copie de ces notes à M. le commissaire Mifroy sur un voyage que nous avons fait ensemble et dont tu connaîtras tous les détails après ma mort. »« Tu vas te tuer ? » « Oh non, ça ne sert à rien. Je mourrai bien tout seul cette fois-ci. Mais je viendrai mourir chez toi, mon bon Ambroise. »« Tu me consoles, » dit Ambroise avec un sourire d'une pitoyable navrance. Nous avons dit qu'Ambroise avait un bon cœur. « En sortant de chez Mifroy, j'irai voir ma femme. » « Je n'osais pas t'en parler. Ta tristesse, ton attitude qui m'est encore inexpliquée, tout me faisait craindre des peines de ménage. Oh, elle m'adore toujours. » Malheureusement, jamais on ne dira une si cruelle et fatale occurrence, jamais on ne le dira assez, malheureusement. Et malheureusement, Ambroise eut l'idée de faire changer de linge à Théophraste. Oui, malheureusement, pour qu'il pût se présenter décemment devant sa femme. Il lui prêta une de ses chemises. Ah, combien malheureusement! Mais qui est-ce qui se serait douté que de mettre une chemise propre et redevenue le matin même du blanchissage, cela pouvait avoir une telle importance? Ce n'est ni la faute d'Ambroise, ni de personne. Ambroise avait pensé, au moins sa femme verra qu'il a une chemise propre. Théophraste lui mit la chemise. « C'est pour être propre, dit-il. C'est pour moi, c'est pour le respect que je dois avoir de moi-même. Car ma femme ne verra pas cette chemise. Ma femme ne me verra pas. Mais moi, je veux la voir de loin, la voir pour savoir si elle est malheureuse. » Chapitre 41. Le dernier geste et la dernière parole de Théophraste. Nous voici arrivés au dernier chapitre de cette surprenante et véridique histoire. Ce n'est point sans une certaine émotion que l'auteur de ces lignes prend aujourd'hui la plume pour retracer le dernier geste et répéter la parole dernière de M. Théophraste Longuet. Il s'est attaché à son héros, et malgré qu'il ait eu à passer en sa compagnie des heures funestes, comme celles qui virent la revanche du veau, il eût désiré que les documents renfermés dans le coffret en bois des îles lui permissent de prolonger de quelques jours l'existence d'un homme si sympathique en dépit de ses crimes. Mais l'histoire est là, l'histoire finit là. Il lui faut donc finir avec l'histoire. Encore, il eût désiré que le dernier geste de M. Théophraste Longuet fût moins tragique. Il eût souhaité pour lui, auteur, qu'il ne prenne aucune joie à tremper, comme il en fit déjà proclamation, sa plume dans le sang des blessures aux lèvres fraîches. Et ensuite, pour cette malheureuse Madame Longuet, qui fut vraiment trop punie de ses faiblesses à l'endroit de M. Le Camus. Pauvre Théophraste! Pauvre Marceline, voilà donc, ô homme, comme tu devais traiter la dame qui fut si longtemps l'orgueil et la joie de ton foyer. Voilà donc, ô femme, à quel trépas lamentable devait te conduire ta nature adultère mais droite. Mais M. Le Camus me dégoûte. Il est 9 heures du soir, la saison est avancée, la nuit est opaque. Monsieur Longuet monte le long, tout le long du coteau du où se dressent les murs de la ville à flots d'azur. La main tremblante, il pousse, avec combien de précautions, la petite porte de derrière du jardin. Il traverse le jardin tout doucement, en s'arrêtant à chaque pas comme un voleur. Ah, Théophraste, comme tu es abattu, Théophraste, comme je te plains. Ô toi qui retiens de la main gauche ton cœur, plus bondissant que dans cette nuit où ronronna le petit chat violet. Ton bon cœur, ton immense cœur, tout chargé d'amour encore pour cette femme que tu veux voir heureuse, et qui ne peut plus l'être avec toi. Une lumière dans le salon, la fenêtre est entrouverte. Tu avances à petits pas, Théophraste, et puis tu allonges la tête. Ah, qu'as-tu vu dans le salon? Pourquoi ce gémissement lugubre s'échappe-t-il de tes lèvres? Pourquoi te prends-tu le front entre tes mains fiévreuses, tes mains qui arrachent les mèches blanches de ton front? Qu'as-tu vu? Après tout, qu'importe ce que tu as vu puisque tu es mort. Tu as voulu la voir heureuse. Sans doute que tu sais maintenant, à n'en pouvoir douter jamais, pendant 100 000 ans qu'elle est heureuse. Pitoyable cocu, éloigne-toi. Que ferais-tu plus longtemps dans ce jardin? Si tu as vu ton ami, Monsieur le Camus, déposer un brûlant baiser sur les lèvres amoureuses de Marceline, quoi d'étonnant à cela, puisqu'on te croit mort? Monsieur le Camus, console Marceline de ta mort, et ta mort est une chose si douloureuse au cœur de Marceline qu'il faudra bien des baisers encore très brûlants pour que Marceline t'oublie. Vas-tu point en vouloir à Monsieur le Camus de ce qu'il se dévoue à cette tâche du bonheur de Marceline? Là, tu pleures, tu es assis par terre dans le jardin, et tu pleures, va-t'en, oh, va-t'en. Malheureux, après avoir vu, tu veux entendre, et tu t'es relevé. Et tu as encore allongé ta tête et tu as écouté. Tu as entendu Monsieur le Camus qui disait « Moi, je le regrette. » Et tu as dit alors merci de bon cœur à ton ami fidèle jusqu'au moment où il a achevé sa phrase. Je le regrette parce que tu étais plus gentil de son temps. À travers champs maintenant, Théophraste fuit, fuit, fuit. Il fuit le crime qu'il appelle. Et peut-être aurait-il fui si loin, qu'il aurait été trop tard pour le crime. Mais sa chemise se mit tout à coup à lui brûler les chairs, et la souffrance horrible que lui procurait cette chemise le précipita dans la certitude qu'il ne pourrait se débarrasser de cette souffrance qu'en se débarrassant du crime. Et il court au crime. Le grand malheur est qu'il n'eût point songé alors à se débarrasser de sa chemise. Dans un état d'exaltation sanguinaire, comparable à rien dans l'histoire des crimes, même si l'on se donne la peine de remonter aux crimes de la mythologie, qui furent cependant de bien beaux crimes, il revint donc sur ses pas, se retrouva dans le jardin, bondit dans le salon, joignit Monsieur le Camus et Madame Longuet dans le vestibule. À sa vue, Adolphe et Marceline poussèrent des cris terribles qui ne furent pas entendus de la bonne, laquelle venait de s'absenter justement pour aller acheter du brillant belge. Une corde était là, provenant de quelque récent déballage. Monsieur Longuet s'en empara, et avant que Monsieur le Camus ait eu le temps d'opposer la moindre résistance, il était ficelé comme une andouille au lampadaire de l'escalier. Puis il se précipita sur une panoplie, en détacha un grand sabre recourbé, et aussitôt Marceline cria à Monsieur le Camus « Prends garde à tes oreilles !» La généreuse femme, elle, ne pensait en cette heure tragique qu'aux oreilles de Monsieur le Camus, ce qui était tout naturel, car elle ne pouvait avoir oublié l'affreux spectacle de l'essoriement de Monsieur Petitot. Elle eût mieux fait, hélas, de songer à sa tête. 2 secondes plus tard, Monsieur Longuet la lui coupait comme on coupe une tête de veau, sans revenir dans la blessure. Et prenant cette tête par les cheveux, il la présenta à Monsieur le Camus, qui était au comble de l'horreur. « Hâte-toi, lui dit-il, de baiser ses lèvres pendant qu'elles sont encore chaudes. » Que pouvait faire Monsieur le Camus, ficelé comme il l'était? Il n'avait qu'à obéir. Aussi se hâta-t-il de baiser les lèvres qui, aussitôt après, se mirent à refroidir. Théophraste grimpa au grenier et en descendit une malle. Il ne fut pas plus de 25 minutes. Le boucher Oudry n'avait pas besoin de plus de 25 minutes pour découper un veau. Théophraste n'avait pas eu besoin de plus de 25 minutes pour découper le boucher Oudry. Il ne fut pas, dis-je, plus de 25 minutes à découper Madame Longuet. Il la découpa, du reste en pleurant, mais il la découpa. Les morceaux en furent proprement déposés dans la malle. Théophraste ferma la malle à clé et la chargea sur ses épaules. Il dit adieu à Monsieur Le Camus, toujours en pleurant. Monsieur Le Camus ne répondit pas, il suffoquait. Théophraste et la malle s'enfoncèrent dans la nuit. Cette nuit même, on aurait pu voir un homme qui, sur la berge de la Seine, au petit pont, déchargeait dans le fleuve le contenu d'une malle. On eût pu même l'entendre murmurer « Ma pauvre Marceline, ma pauvre Marceline, une si belle femme. Oh, elle était pas trèfle, bien sûr. » À l'aurore, Théophraste frappait à lui de ce bon Ambroise. Ambroise vit qu'il avait pleuré, lui demanda très affectueusement ce qui lui était encore arrivé. « D'abord, fit Théophraste, je veux te rendre ta chemise. Elle ne me la redonne jamais, elle brûle. »« Comment, ma chemise brûle ?» répliqua Ambroise interloqué. « Que me racontes-tu là ? C'est une honnête chemise. Elle a été lavée, comme toutes mes autres chemises, au lavoir de la rue du Pont aux Choux. » Théophraste pâlit. « Oh, c'est donc cela !» murmura-t-il. Et il se coucha tout de suite pour ne plus se relever. « Oui, c'était donc cela !» Car enfin, le lecteur doit bien penser tout de même qu'on ne découpe pas ainsi une femme en morceaux, même la sienne, qu'on ne va pas jeter ses morceaux à la berge du petit pont sans une raison sérieuse. Théophraste avait eu une raison sérieuse de découper. Elle lui était venue du fond des siècles, telle la tunique de Déjanire dévorant Hercule, la chemise d'Ambroise l'avait brûlée d'un criminel feu. Il avait revêtu, en même temps qu'elle, l'âme de cartouche. Il avait senti passer en ses veines la flamme séculaire du meurtre, car cette chemise avait été lavée au lavoir de la rue du Pont aux Choux. Ce lavoir s'élève à l'endroit même où naquit Cartouche. Oui, le geste de tuer lui était revenu du fond des siècles. Le même geste qui lui avait fait découper 200 ans auparavant sa femme infidèle, Marie-Antoinette Néron, et pour en jeter les morceaux au petit pont de l'Hôtel-Dieu. Je vous dis, moi, qu'il ne faut point sourire de cette explication exorbitante. Que messieurs les juges y songent. Bien des crimes qu'ils ne comprennent point, mais qu'ils condamnent tout de même, apparaîtraient moins obscurs si l'on faisait comparaître sur les bancs de la cour d'assises ce complice qui se cache au fond des siècles. Théophraste était le plus doux et le plus tendre des hommes, et cependant il tuait, mais il en avait bien du regret après. Ne disait-il point à Ambroise qui le soignait à son lit de mort « pleins-moi de tout ton cœur, car j'étais un peu vif avec ma femme. » Non, non, il ne s'expliquait point une si rude vivacité, et il en avait un remords qui le conduisit en quelques semaines à la tombe. C'était le remords de l'acte d'un autre, cependant. Pourquoi, ah, pourquoi la nature nous fait-elle expier les crimes d'il y a 200 ans? Pauvre Théophraste, à cette heure où tu vas retourner au fond des siècles, permets-moi de m'agenouiller pieusement, ô martyr de la tare héréditaire, sur l'humble descente de lit qu'arrose de ses larmes le bon Ambroise. Je pardonne à Monsieur Le Camus, dit-il, dis-tu dans le plus funèbre des sourires. Quand je serai mort, tu diras chercher
et tu lui apprendras que je l'ai nommé mon exécuteur testamentaire. Ce sera mon châtiment. Je lui lègue tous mes biens. Il saura ce qu'il doit faire de ce coffret en bois des îles que tu vois à mon chevet et où j'ai renfermé le formidable secret des derniers mois de ma triste vie. Ayant dit ces mots, Théophraste se souleva sur ses oreillers, car l'oppression le gagnait, et il savait qu'il allait mourir. Son regard n'était plus de ce monde. Son regard semblait considérer les choses à travers les murs, et sa voix douloureuse dit encore « J'ai vu, je vois, je retourne vers le rayon carré que le soleil a oublié dans les caves de la conciergerie depuis le commencement de l'histoire de France. » Et il expira. Ambroise pleure, pleure, car il ne sait pas que cet homme qui vient d'expirer n'est pas mort. Certes, il est des gens très bien renseignés, paraît-il, qui disent que lorsqu'on est mort, on est mort. Ils en sont sûrs. Félicitations, félicitations, je ne les contredirai pas aujourd'hui, parce que je suis très fatigué. Mais nous en reparlerons demain au fond des tombeaux.